Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Françoise Thibault.
Dans le cadre de notre étude sur l'Empire et Napoléon Bonaparte, nous avons aujourd'hui un invité qui est Emmanuel de Varesquiel. Il y a quelques années, vous nous avez enchanté avec un Talleyrand extrêmement brillant, intéressant et vu souvent sous un angle très nouveau. Et vous venez de publier un ouvrage sur les 100 jours qui porte une griffe également de vision un peu détournée. Les 100 jours, c'est une période extrêmement mal connue des Français. Elle est liquidée en quelques lignes dans les livres d'histoire. Or, c'est une période clé de la fin de la période napoléonienne et puis qui annonce la suite de l'histoire de l'Europe.
Oui, ce qui importe, à mon avis, pour l'historien, c'est la question qu'il pose à son sujet. Et de la question posée par l'historien à son sujet dépend la nature de son livre, la méthode qu'il utilise, la construction, le type de construction qu'il impose à son livre, et au final, le livre lui-même. Et la question que j'ai posée à ces 100 jours, que j'ai voulu empoigner, non pas une bonne fois pour toutes, parce que rien n'est jamais définitif en histoire, heureusement, c'est à peu près la suivante, c'est-à-dire... Est-ce que les 100 jours sont décidément, comme l'ont montré un certain nombre de mes prédécesseurs qui se sont risqués à ce sujet ô combien délicat, c'est décidément l'ultime parade de l'épopée napoléonienne, une sorte de baisser de rideau final, ou est-ce que, par hasard, les 100 jours, ce ne serait pas autre chose, ce ne serait pas le début de quelque chose d'autre, et la matrice de quelque chose qu'on a appelé le 19e siècle, et est-ce que, dans 1815, ne seraient pas contenues les révolutions de 1830, de 1848, et peut-être même la Commune de 1871. Voilà, c'est la question que je me suis posée. Et me posant cette question, j'ai évidemment pris la décision de regarder mon sujet à contre-jour. C'est-à-dire, si je considère, ou si je me demande si les 100 jours n'ont pas été... au lieu d'être l'expression ultime de la gloire napoléonienne, une rupture majeure de l'histoire du pays, de l'histoire des cohésions nationales, alors est-ce qu'il ne serait pas intéressant de regarder les 100 jours à contre-jour, c'est-à-dire de les regarder pas seulement du côté de Napoléon, ce que j'ai fait par ailleurs, mais aussi du côté de ceux qui ont subi le retour de Napoléon, du côté, entre guillemets, des vaincus de l'histoire, des anonymes de l'histoire aussi, de ceux qui se sont trouvés confrontés à une période extrêmement dense, une période de crise extrêmement violente, et se sont retrouvés face à des possibles, et qui ont été tentés par l'impossible, c'est-à-dire celui de saisir ces possibles. Et ces victimes des 100 jours, ces anonymes de l'histoire, on les retrouve des deux côtés. Ce sont les demi-soldes napoléoniennes qui accueillent dans l'enthousiasme Napoléon à son retour aux Tuileries le 20 mars 1815, mais ce sont aussi les partisans, les fidèles des Bourbons, de la monarchie, les officiers de la maison militaire du roi qui accompagnent le vieux roi Podagre, le vieux Louis XVIII, qui était certes pas un roi guerrier, sur les routes de l'exil au cours de cette semaine de Pâques, que l'on a appelée par dérision la Semaine Sainte, et qui a donné lieu à un très beau roman sous la plume d'Aragon, après la Seconde Guerre mondiale, dans les années 1950. Ce sont tous ces gens-là, les victimes et les anonymes de cette histoire. Et ce sont eux qui m'ont intéressé. Peut-être qu'en prenant de la bouteille, à force de manipuler des sources, des documents, peut-être qu'on se risque un peu plus, avec les années qui passent, à s'intéresser à l'humanité, à la personnalité des individus, des protagonistes qui ont fait et qui ont commenté les événements. Donc, mon ambition, ça a été au fond d'écrire un récit et à travers ce récit de démonter et de remonter les voix des protagonistes de ces événements, d'essayer de comprendre pourquoi ils ont essayé de se recomposer par rapport à ces événements, pourquoi est-ce qu'ils ont essayé de retrouver une cohérence par rapport à ces événements. Car ces hommes ont été confrontés on parle de crise aujourd'hui, à une violence politique et même pour certains évidemment physique, militaire, extrêmement forte et dense. Ils ont été amenés à subir en 3 mois de temps, de mars 1815 à juillet 1815, la succession de 3 régimes, avec tout ce que ça représente de trahison par rapport à soi-même, d'incohérence, de serments prêtés à répétition. Et ils se sont posé la question de savoir comment ils allaient s'en tirer vis-à-vis de leur propre conscience. Comment est-ce qu'ils allaient pouvoir se pardonner à eux-mêmes au moment de l'écriture de leur mémoire. Donc ils se sont recomposés. Ça m'a beaucoup intéressé.
Thierry Lenz, est-ce que vous pourriez nous redonner une mini-chronologie de ces 100 jours, car tout le monde n'est pas spécialiste de cette période.
Oui, alors écoutez, d'abord les 100 jours, comme le dit Emmanuel de Varesquiel dans son introduction, l'expression 100 jours n'est pas d'origine bonapartiste, elle est d'origine royaliste, dirons-nous, puisque c'est le préfet de Paris qui, accueillant Louis XVIII à son retour en juillet 1815, lui dit « Il y a 100 jours que votre majesté a été arraché à l'affection de vos sujets ». Enfin, je cite mal, évidemment. Alors, les 100 jours, c'est donc cette période qui est comprise entre le retour de l'île d'Elbe de Napoléon, où Napoléon a été exilé en 1814, donc retour qui se fait le 20 mars 1815, et, je dirais, ou la seconde abdication de Napoléon, le 22 juin, ou le retour de Louis XVIII, le 8 juillet 1815. Donc, c'est une période qui est marquée, bon, par la fuite du roi, qui est marquée par le retour de Napoléon, par une tentative de Napoléon de mettre au point un régime qui est au fond la négation du système napoléonien, la négation de son propre empire, et puis qui se termine par la glorieuse défaite de Waterloo le 18 juin 1815, donc avec une abdication de Napoléon assez rapidement dans les jours qui suivent. C'est un épisode, alors si je pouvais donner moi un tout petit avis sur le livre d'Emmanuel de Varesquiel, je pense que ce qu'il vient de nous dire évidemment est évident dans son livre et on le ressent bien. Ce qu'il n'a pas dit ou ce qu'il n'a pas osé dire, c'est que c'est un livre qui est fait aussi par quelqu'un qui aime l'histoire, qui aime le fait, qui aime les archives inédites, et il en a trouvé à nouveau, comme il en avait trouvé sur Talleyrand énormément, il en a encore trouvé beaucoup, et puis il a dans ce livre, il y a aussi un vrai sens du récit, c'est-à-dire que ça n'est pas un livre uniquement de réflexion sur un événement, mais c'est aussi un récit, un grand récit, avec des personnages multiples, des personnages qui peuvent être drôles, des personnages qui peuvent être agaçants. Il y a 1000 épisodes qui sont racontés dans cet ouvrage qui mériterait à eux seuls une émission, mais si je dois en retenir un seul, ce sont les chapitres qu'Emmanuel de Varesquiel consacre à la fuite de la maison militaire du roi qui essaie de suivre Louis XVIII à Gand et qui s'embourbe littéralement. C'est au fond un peu ce qu'Aragon avait dit, mais là on est dans l'histoire avec les témoignages, avec les documents qu'Emmanuel met en scène et met en musique comme un grand écrivain, parce que c'est, en plus ça se lit avec un grand plaisir, et aussi bien on réfléchit sur l'événement qu'on en apprend beaucoup, et on ne pourra plus aujourd'hui écrire, travailler sur les 100 jours sans tenir compte de ce livre-là, de même qu'on ne pourra plus écrire sur Talleyrand sans tenir compte de cette biographie-là, qui n'était pas la biographie de plus de Talleyrand, qui était une biographie neuve, et on n'a pas été assez attiré par le sous-titre à l'époque, qui était Le Prince Immobile, et du livre sur Talleyrand, qui était en quelque sorte une réponse à la girouette Talleyrand, ou comme disait joliment Napoléon, cette merde dans un bas de soie, qui masque une réalité politique, la réalité d'un grand homme d'État, avec ses petits travers, comme souvent les hommes d'État.
Oui, je voudrais rajouter quelque chose sur la méthode. On peut essayer de faire passer le vent de l'histoire, comme le dit lui-même d'ailleurs Thierry Lenz, mais encore faut-il rester neutre par rapport à son sujet. Il ne s'agit pas, dans ces 100 jours que j'ai tenté, de louer les victimes de Napoléon et de taper sur Napoléon. J'aime bien cette phrase de François Furet qui dit « Après tout, l'historien n'est pas là pour faire de la morale ». Il ne s'agit évidemment pas d'indiquer le bien ou le mal, mais il s'agit de comprendre comment, encore une fois, les protagonistes de cet événement l'ont vécu. Et on le comprend d'autant mieux quand, puisque très aimablement Thierry Letts parlait des sources que j'ai utilisées dans des fonds privés, dans des fonds publics qui n'avaient en effet, pour certaines, jamais été regardées, je me suis beaucoup intéressé aux sources étrangères, parce qu'on ne s'observe jamais mieux soi-même qu'à travers le regard des autres. Et j'ai essayé de comprendre comment les Européens voyaient ces Français qui trouvaient d'ailleurs en partie complètement frappadingue, à moitié fou, inconstant et ingouvernable, et en plus dangereux. Car ce qui domine, le sentiment qui domine et qui fait que cette coalition se reforme si vite à Vienne au moment du retour de Napoléon en mars 1815, c'est la peur. Et c'est le fait que la France révolutionnaire, consulaire et impériale a fait peur à l'Europe pendant près d'un quart de siècle et qu'elle lui fait à nouveau peur. Et c'est le fait que les Européens pensent qu'ils ont laissé la France qu'ils ont été trop indulgents dans une certaine mesure vis-à-vis de la France, qu'elle est en trop bon état, qu'elle est encore trop puissante et trop forte, et comme elle est habitée par des gens qui sont totalement imprévisibles et incontrôlables, il faut l'humilier et l'abaisser une bonne fois pour toutes.
Donc à la première négociation de Vienne, finalement, la France s'en sort très bien et tout le monde y trouve son compte, mais la seconde négociation va être une négociation sanction.
Il n'y a pas de première et deuxième négociation à Vienne, puisque le Congrès, en réalité, ne se dissout pas. Au contraire, il se cristallise, il se reforme. L'unité du Congrès se reforme au moment du retour de Napoléon. Napoléon et la France, en fait, redeviennent le plus petit dénominateur commun, l'ennemi public numéro un de l'Europe. L'Europe se divisait. Alors que Napoléon était éliminé politiquement, on lui avait donné nominalement une petite royauté, un carré de chou, comme dit Chateaubriand, de façon très méprisante à l'île d'Elbe. Après tout, il était tout de même roi souverain de droit à l'île d'Elbe. C'est pour ça d'ailleurs que ça a posé des problèmes quand il s'est agi de l'empêcher d'en sortir. Mais en tout cas, tout le monde se divisait sur les dépouilles de l'Empire, en particulier les Prussiens, les Russes et les Autrichiens. Quand Napoléon revient... les choses sont à nouveau très claires et très simples, c'est-à-dire qu'on a à nouveau un ennemi commun et on se ressoude, on recrée une coalition et on retrouve au coin du bois, si j'ose dire, dans les Waterloo-Morne-Plaine, dans les plaines de Belgique, l'ennemi de toujours, celui qui, encore une fois, fait peur à l'Europe pour le battre définitivement le 18 juin 1815 à Waterloo. Mais est-ce que, par exemple... cet épisode de Waterloo, bon, il y a eu des livres et ô combien savants ou ô combien merveilleusement bien écrits sur Waterloo, et encore récemment un livre d'origine italienne qui a été publié l'année dernière. Moi, le chapitre que je consacre à Waterloo s'appelle de façon peut-être peu protocolaire « Dans le cul de la bataille de Waterloo ». J'ai essayé de montrer Waterloo en dehors du champ de bataille. C'est à Waterloo vu de Bruxelles, vu de Gand, vu de Vienne, et puis pas le Waterloo du 18 juin, pas le Waterloo de la glorieuse défaite. D'ailleurs, j'ai tout un développement sur cette fascination qu'ont les Français pour les défaites glorieuses. Et jusqu'au discours de Renan, qui, à la fin du 19e, explique qu'au fond, l'unité nationale s'est faite dans le malheur. Et regardez l'armée, qui j'étais aux Invalides il n'y a pas très longtemps, et cette extraordinaire plaque aux victimes de Cameron, 1 contre 40. L'armée passe son temps à fêter des défaites. Bazeille, Sidi Ibrahim, Cameron, Waterloo avec l'aigle blessé. On adore ça en France, les défaites glorieuses. J'ai essayé de montrer que, défaites glorieuses certes, mais que Waterloo avait été aussi une épouvantable catastrophe. Et moi, je me suis promené un peu comme Victor Hugo au début des Misérables avec son Thénardier, qui apparaît, la lune était sinistre sur cette plaine, qui apparaît dans la nuit du 18 au 19 quand il essaye de dépouiller le presque cadavre de ce colonel moribond sur le champ de bataille. Moi, j'ai regardé le champ de bataille le 19 juin. Et ce qui est assez extraordinaire, et c'est là où on voit la façon dont les Français qui étaient de l'autre côté, parce qu'on a eu beaucoup de Français du côté du quartier général de Wellington, dont ces Français qui n'étaient pas avec l'armée napoléonienne sur le champ de bataille, mais qui étaient autour du champ de bataille, la maison militaire du roi, les émigrés, etc., se sont précipités d'ailleurs sur l'ordre de leur souverain, pour certains, sur le champ de bataille, pour ramasser les blessés et les morts. Et quand on regarde dans les détails, à partir des récits qui ont été écrits sur cette journée du 19 juin, la façon dont les haines, des vieilles haines issues de la Révolution, les vieilles haines de division française sont ressorties, il y a des épisodes incroyablement dramatique d'officiers blessés qui sont recueillis par ces émigrés royalistes et qui leur jettent leurs jambes à la figure, si j'ose dire, qui refusent littéralement d'être soignés par des traîtres, car ce sont des traîtres. Ces royalistes du 19 juin. Et ça, c'est tout à fait passionnant, parce que sur un épisode comme cela, on voit à quel point cette période des 100 jours a été encore une fois la matrice des divisions, de cette culture de l'affrontement qui est tellement particulier à notre cher pays, si reprise de la Révolution il y a au 19e siècle, c'est en partie, à mon avis, à cause de ces 100 jours.
Merci Emmanuel de Varesquiel de nous parler avec tellement de flamme de votre ouvrage Les 100 jours, publié chez Fayard, que je ne saurais trop recommander à nos auditeurs. Merci beaucoup.